Journal de Jonathan Harker. 1er octobre, soir.
Je trouvais Thomas Snelling chez lui à Bethnal Green. Mais malheureusement, il lui était impossible de se rappeler quoi que ce soit. L'annonce de ma visite lui avait laissé présager quelques bonnes bières. Et cela avait été plus fort que tout. Il avait commencé trop tôt ses libations. Toutefois, j'appris par son épouse, qui avait l'air d'une pauvre femme très correcte, qu'il n'était que l'assistant de Smollett, qui était le véritable patron. J'allai donc tout de suite à Walworth et trouvai Mr. Joseph Smollett chez lui, en manche de chemise, en train de prendre le thé. C'était un brave type, intelligent, sans conteste, un travailleur sérieux et fiable, avec la tête sur les épaules. Il se souvenait de tout ce qui concernait l'incident des caisses. Il tira de quelques mystérieuses poches de son pantalon un merveilleux carnet aux pages écornées, couvert de hiéroglyphes tracés à l'aide d'un crayon gras à moitié usé, et put me donner la destination des caisses. « De toutes les caisses, me dit-il, qui se trouvaient dans le chargement qui est parti de Carfax, 6 ont été livrées au 197 Chicksand Street, Mile End, Newtown, et 6 autres sont allées à Jamaica Lane, Bermondsey. » Si le comte voulait répartir pour son usage ses répugnants refuges dans tout Londres, alors ces endroits n'étaient qu'une première étape, avant une distribution plus générale. La manière systématique dont tout était conçu me laissa penser qu'il ne voulait sans doute pas se limiter à 2 quartiers de Londres. Il avait maintenant un point d'attache à l'extrême est de la rive nord, à l'est de la rive sud et dans le sud de Londres. Certainement, il n'avait pas voulu exclure de ses plans diaboliques le nord et l'ouest, sans penser à la city elle-même et au cœur du Londres fashionable au sud-ouest et à l'ouest. Je demandai alors à Smollett s'il pouvait me dire si d'autres caisses étaient parties de Carfax. Il me répondit « Eh ben, votre honneur, vous avez été très correct avec moi. » Je lui avais donné un demi-souverain. « Et je vais vous dire tout ce que je sais. J'ai entendu un homme du nom de Bloxham dire il y a 4 nuits de ça, dans une taverne de Pincher Alley, que lui et son pote avaient remué de la poussière dans une vieille maison à Perfect. » Il n'y a pas beaucoup de travail de ce genre-là, et je crois bien que Sam Bloxham y pourrait vous en dire pas mal là-dessus. Je lui demandai s'il savait où je pourrais le trouver, et je lui dis que je serais prêt à lui donner un autre demi-souverain s'il pouvait se procurer son adresse. Alors il avala le reste de son thé et se leva en disant qu'il allait chercher un peu partout. Une fois à la porte, il s'arrêta et me dit « Écoutez, votre honneur, il n'y a pas de raison de vous garder ici. Peut-être bien que je trouverai Sam bientôt, mais peut-être bien que non, mais de toute façon, il vous dira pas grand-chose ce soir. Quand il commence à picoler, il n'y en a pas deux comme lui. Si vous pouvez me donner une enveloppe avec un timbre et avec votre nom dessus, je vous posterai ce soir l'endroit où vous pourrez le trouver. Mais vous ferez bien d'aller le voir tôt le matin, ou vous le louperez. » Parce que Sam y commence tôt le matin, même s'il a picolé la veille. » C'était fort bien pensé, et une petite fille partit donc avec un penny pour acheter une enveloppe et une feuille de papier. Je lui avais dit de garder la monnaie. Quand elle revint, j'apposai le timbre sur l'enveloppe et y écrivis mon adresse. Puis, Smollett m'ayant à nouveau promis de m'envoyer l'adresse dès qu'il la connaîtrait, je rentrai à la maison. Quoi qu'il en soit, nous sommes sur la piste. Mais ce soir, je suis fatigué et je dois dormir. Mina est presque endormie et me semble un peu pâle. À voir ses yeux, on dirait même qu'elle a pleuré. Pauvre chérie, je suis certain que cela l'angoisse de rester dans l'ignorance. Et elle doit se faire 2 fois plus de soucis pour moi et pour les autres. Mais il le faut. Il vaut mieux être déçu et angoissé comme elle l'est actuellement que d'avoir les nerfs brisés. Les 2 docteurs ont bien raison d'insister pour qu'elle soit tenue en dehors de cette terrible affaire. Je dois rester ferme, car c'est sur moi que doit reposer tout le poids de ce silence. Je ne dois même pas aborder le sujet avec elle en aucune circonstance. À vrai dire, ce ne sera pas là une tâche bien difficile, car elle est elle-même maintenant réticente et n'a pas prononcé un mot à propos du comte depuis que nous lui avons fait part de notre décision.
2 octobre, soir.
Une journée longue et excitante. À la première distribution du courrier, j'ai reçu mon enveloppe avec à l'intérieur une feuille de papier toute sale, sur laquelle était écrit, avec un crayon de charpentier et d'une écriture large: Sam Bloxam, Coskranz, 4 Potter's Court, Bartel Street, Walworth. Demandez adjoint. On m'avait apporté cette lettre au lit, et je me levai sans réveiller Mina. Elle était toute pâle et paraissait épuisée. Elle n'avait pas l'air bien du tout. Je décidai de ne pas la réveiller, mais d'organiser son retour à Exeter dès que j'aurai terminé mes recherches de ce jour. Je pense qu'elle serait plus heureuse à la maison avec ses tâches quotidiennes qu'ici, parmi nous, ignorant ce que nous faisons. Je ne vis le docteur Seward qu'un instant. Je lui dis que je sortais et lui promis de revenir dès que possible lui dire, ainsi qu'aux autres, ce que j'aurais découvert. J'allai à Walworth et trouvai, avec quelques difficultés, Potter's Court. La tâche fut rendue difficile par l'orthographe approximative de Mr. Smollett, mais je trouvai l'endroit et ensuite je n'eus aucune difficulté à trouver la pension Corcoran. Quand je demandai à l'homme qui vint m'ouvrir si je pouvais voir Mr. Adjoint, il secoua la tête et me dit « Je le connais pas ». Il n'y a jamais eu personne de ce nom ici. Je l'ai jamais entendu dire de ma vie. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un de ce nom ni ici ni ailleurs. » Je sortis la lettre de Smollett et je me dis que je commettais peut-être la même erreur que lorsque je cherchais la rue. « Vous êtes qui ?» lui demandai-je. « Je suis l'adjoint, » répondit-il. Je compris tout de suite que j'étais sur la bonne piste. Une fois de plus, l'écriture phonétique de Smollett m'avait induit en erreur. Une demi-couronne suffit pour mettre à ma disposition toutes les informations en sa possession. Et j'appris que Mr. Bloxam avait cuvé sa bière la nuit précédente à Corcoran et qu'il était parti travailler à Poplar à 5 heures du matin. L'homme ne pouvait me dire à quel endroit exactement, mais il avait vaguement entendu dire que c'était un nouvel entrepôt. Avec ce maigre indice, je partis pour Poplar. Il était midi quand j'entendis parler d'un bâtiment qui pouvait bien être celui que je cherchais, et c'était dans un café où les ouvriers venaient se restaurer. L'un d'entre eux m'indiqua qu'on construisait un nouvel entrepôt sur Cross Angel Street, et comme cela pouvait correspondre à la vague description qu'on m'avait donnée, je m'y rendis de suite. Un portier maussade, puis un contremaître tout aussi maussade, que j'amadouai avec quelques espèces sonnantes et trébuchantes, me mirent sur les traces de Bloxam. On l'envoya chercher après que j'eus proposé de payer ses gages de la journée pour pouvoir lui poser quelques questions sur une affaire d'ordre privé. C'était un garçon intelligent, bien que rude de manière et de langage. Une fois que je lui eus promis de payer pour ses informations, il me dit qu'il avait fait 2 voyages entre Carfax et une maison de Piccadilly, et qu'il avait transporté à ces occasions 9 grandes caisses, sacrément lourdes, à l'aide d'un cheval et d'un chariot qu'il avait loué pour l'occasion. Je lui demandai s'il pouvait me donner le numéro de la maison de Piccadilly, et il me répondit « Ben, votre honneur, j'ai oublié le numéro, mais c'était juste à quelque porte d'une grande église blanche ou quelque chose comme ça, pas construite depuis longtemps. C'était une vieille maison, pleine de poussière aussi. » Même si elle avait rien à voir avec la saleté de la maison où qu'on a pris ses sacrées caisses. Et comment êtes-vous entré dans ces maisons si aucune n'est habitée? Le vieux qui m'avait engagé, il m'attendait devant la maison à Purfleet. Il m'a aidé à soulever les caisses et à les mettre dans la voiture. Dieu me damne, mais c'était le type le plus fort que j'ai jamais vu. Et pourtant, c'était un vieux, avec une moustache blanche, et si maigre que je pensais pas qu'il pourrait soulever une ombre. Je frissonnais. Eh ben, il portait les caisses de son côté comme si c'était des sachets de thé, alors que moi je soufflais et je transpirais, et pourtant je suis pas un gringalet moi non plus. Et comment êtes-vous entré dans la maison de Piccadilly? Il était là aussi. Il a dû partir tout de suite et arriver là avant moi, parce que quand j'ai sonné, il est venu ouvrir et il m'a aidé à mettre les caisses dans le hall. « Les 9 caisses ?» demandai-je. « Ouais, il y en avait 5 dans le premier chargement et 4 dans le second. J'ai attrapé une sacrée soif et je sais même pas comment je suis retourné chez moi. » Je l'interrompis. « Toutes les caisses sont donc restées dans le hall ?»« Ouais, c'était un grand hall et il n'y avait rien d'autre dedans. » J'essayais de l'amener à en dire plus. « Vous n'avez jamais eu la clé ?»« Jamais eu besoin. » Le vieux, il a ouvert lui-même, et je me souviens pas bien la dernière fois, j'ai bu une bière. Et vous ne vous souvenez pas du numéro de la maison ? Non, sœur, mais vous faites pas de soucis pour ça. C'est une grande baraque avec le devant en pierre et une arche et un grand escalier. Je les connais bien, ces marches, parce que j'ai dû demander de l'aide à 3 pèlerins qui passaient par là et qui voulaient gagner une pièce. Le vieux, il les a payés, et quand ils ont vu ce qu'il leur a donné, ils en voulaient encore plus. Mais il en a pris un par les épaules, et il l'aurait balancé du haut de l'escalier, s'ils s'étaient pas tous barrés en piaillant. Je pensais que je pourrais trouver la maison à l'aide de cette description. Après avoir payé mon ami pour ses informations, je partis donc pour Piccadilly. J'avais appris quelque chose d'inquiétant. Le comte pouvait, c'était évident, manier les caisses lui-même. Si tel était le cas, alors le temps pressait. En effet, maintenant que les caisses étaient relativement dispersées, il pouvait poursuivre la tâche lui-même, quand il le choisirait. À Piccadilly Circus, je renvoyai mon cab, et je me dirigeai à pied vers l'ouest. Après le Junior Constitutional, je trouvai la maison qui m'avait été décrite. C'était bien l'un des repères de Dracula. La maison semblait avoir été longtemps inoccupée. Les fenêtres étaient sales et les volets étaient fermés. Tout était crasseux et la peinture sur les parties métalliques s'était écaillée depuis longtemps. Il était évident que, jusqu'à récemment, il y avait eu un grand panneau sur le balcon, mais il avait été grossièrement arraché de ses fixations qui étaient encore en place. Posé sur le balcon, on pouvait voir quelques planches éparses. J'aurais donné beaucoup pour pouvoir voir cette affiche encore intacte. Elle m'aurait peut-être fourni des informations sur le propriétaire de la maison. Je me souvenais des recherches qui avaient mené à l'achat de Carfax, et je ne pouvais m'empêcher de penser que si je pouvais apprendre qui était l'ancien propriétaire, il y aurait sans doute moyen de découvrir comment accéder à l'intérieur. Il n'y avait plus rien à apprendre en restant sur Piccadilly et rien à faire de plus. Je fis donc le tour pour voir si je pouvais apprendre quelque chose de plus. Il y avait du monde dans la ruelle, les maisons de Piccadilly étant presque toutes occupées. Je demandai à un ou deux portiers ou serviteurs que je croisais s'ils pouvaient me parler un peu de la maison inoccupée. L'un d'entre eux me dit qu'il avait entendu dire qu'elle venait d'être achetée, mais il ne savait pas à qui. Il me dit toutefois que, jusque très récemment, il y avait eu un panneau à vendre et que peut-être Mitchell, Sons & Candy, les agents immobiliers, pourraient m'en dire plus. Il se souvenait avoir vu le nom de cette firme sur le panneau. Je ne voulus pas me montrer trop impatient, ni éveiller l'intérêt de mon interlocuteur. Je le remerciai donc tout simplement et m'éloignai. Il faisait de plus en plus sombre et la soirée d'automne commençait. Je ne voulais donc pas perdre de temps. Un annuaire du Berkeley m'apprit l'adresse de Mitchell, Sons & Candy, et j'étais bientôt devant leur bureau sur Sackville Street. Le gentleman qui me reçut fut particulièrement aimable, mais aussi très peu bavard. Après m'avoir dit que la maison de Piccadilly, que pendant tout notre entretien il appela « le manoir », était vendue, il considéra la discussion comme terminée. Quand je lui demandai qui l'avait acheté, il ouvrit de grands yeux tout étonné et me dit après une courte pause « Elle est vendue, sœur. » « Pardonnez-moi, lui dis-je avec une égale politesse, mais j'ai une raison particulière pour avoir besoin de savoir qui l'a acheté. » À nouveau, une longue pause, puis il haussa encore plus les sourcils et répéta, laconique, « Elle est vendue, sœur. » Assurément, répliquai-je. Cela ne vous dérangerait peut-être pas beaucoup de m'en dire un peu plus. Mais cela me dérangerait, répondit-il. Mitchell, Sons and Candy considèrent que les affaires de leurs clients sont tout à fait confidentielles. C'était manifestement un homme rigide, avec lequel il était inutile de discuter. Je pensais qu'il valait mieux l'affronter sur son propre terrain, et je lui dis « Vos clients, sœur, ont de la chance d'avoir un gardien aussi rigoureux pour leurs secrets. Je suis moi-même un homme du métier. » Et je lui tendis ma carte. « En l'occurrence, je ne suis pas motivé ici par ma propre curiosité. J'agis de la part de Lord Godalming, qui voudrait quelques renseignements sur une propriété qui était récemment à vendre, d'après ce qu'il a compris. » Ces mots éclairaient l'affaire sous un jour nouveau, et il dit « J'aimerais vous obliger si je le pouvais, Mr. Harker, et surtout, j'aimerais obliger sa seigneurie. Nous avons pris en charge la location de quelques chambres pour lui lorsqu'il était encore l'honorable Arthur Holmwood. Si vous voulez avoir l'obligeance de me laisser l'adresse de sa seigneurie, je consulterai la direction à ce sujet, et dans tous les cas, j'écrirai à sa seigneurie par le courrier de ce soir. Ce serait un plaisir de pouvoir déroger quelque peu à nos règles afin de pouvoir donner à sa seigneurie l'information qu'elle demande. » Je voulais en faire un ami et non un ennemi. Aussi, je le remerciai, donnai l'adresse d'Arthur chez le docteur Seward et rentrai. La nuit était tombée et j'étais fatigué et affamé. Je pris une tasse de thé à l'Aerated Bread Company et rentrai à Purfleet par le premier train. J'y retrouvai tous les autres. Mina était pâle et avait l'air très fatiguée, mais elle fit de vaillants efforts pour paraître joyeuse. Cela me serrait le cœur de penser que je devais tout lui taire, ce qui renforçait encore son inquiétude. Dieu merci, ce sera la dernière fois qu'elle sera témoin de nos conférences et qu'elle ressentira l'amertume de notre silence. Cela me demande tout mon courage de la tenir à l'écart de notre sombre entreprise. Elle semble toutefois en prendre son parti. Ou alors, c'est que le fait ne serait-ce que d'aborder le sujet lui est maintenant odieux, car lorsque nous y faisons accidentellement référence, elle se met à frissonner. Je suis heureux que nous ayons pris notre résolution à temps. En effet, dans de telles dispositions d'esprit, ce que nous allons progressivement découvrir aurait été une torture pour elle. Je ne pouvais informer les autres de mes découvertes du jour avant que nous soyons seuls. Et donc, après le dîner, qui fut suivi d'un peu de musique pour sauver les apparences, j'emmenai Mina à la chambre et la laissai se mettre au lit. Ma chère femme se montra plus tendre que jamais et se jeta à mon cou comme si elle voulait me retenir. Mais j'avais beaucoup à dire aux autres et je dus partir. Dieu merci, le silence que je me dois d'observer à son endroit n'a rien changé entre nous. Quand je redescendis, je trouvai les autres assemblés autour du feu dans le bureau. Dans le train, j'avais complété mon journal et je le leur lus tout simplement. C'était le meilleur moyen de partager avec eux mes informations. Quand j'eus terminé, Van Helsing dit « C'était une bonne journée de travail, ami Jonathan. » Sans aucun doute, nous sommes sur les traces des caisses manquantes. Si nous les trouvons tous dans cette maison, alors notre travail est presque terminé. Mais s'il en manque encore, nous devrons les chercher jusqu'à ce que nous les trouvions. Alors nous frapperons le coup final et acculerons ce monstre à sa mort véritable. Nous restâmes silencieux un moment, et tout à coup, Mr. Morris prit la parole. « Dites donc, comment va-t-on entrer dans cette maison ?»« Nous sommes bien entrés dans l'autre, » répondit Lord Godalming. « Mais Art, c'était différent. Nous sommes entrés par effraction à Carfax, mais il faisait nuit, et nous avions un parc entouré de murs pour nous protéger des regards. Ça sera autre chose de s'introduire dans une maison de Piccadilly, que ce soit de jour ou de nuit. Je dois avouer que je ne sais pas comment nous allons faire pour rentrer. » À moins que ce rond de cuir ne puisse nous procurer une clé, nous en saurons peut-être plus lorsque vous aurez reçu la lettre demain matin. » Lord Godalming fronça les sourcils, se leva et se mit à arpenter la pièce. Mais bientôt il s'arrêta, et dit en se tournant successivement vers chacun d'entre nous. Quincey est plein de bon sens. Cette histoire d'effraction commence à devenir sérieuse. Nous avons réussi une fois, mais maintenant, nous voilà face à une tâche bien difficile, à moins que nous ne puissions trouver les clés du compte. Comme nous ne pouvions rien faire de plus jusqu'au matin, et comme il était plus sage d'attendre que Lord Godalming ait eu des nouvelles de Mitchell, nous décidâmes de ne prendre aucune résolution avant le petit déjeuner. Nous restâmes assis à fumer un bon moment, discutant de tous les aspects de l'affaire, et j'en profitai également pour remettre ce journal à jour. Je suis maintenant très fatigué, et je vais aller au lit. Juste un mot de plus, Mina dort profondément, et sa respiration est régulière. Son front est strié de petites rides, comme si dans son sommeil elle continuait à réfléchir. Elle est toujours trop pâle, mais ne semble pas aussi hagarde que ce matin. Demain, je pense, elle ira mieux. Elle sera à la maison à Exeter. Oh, mais comme j'ai sommeil!
Journal du docteur Seward. 1er octobre.
Je suis à nouveau déconcerté par Renfield. Son humeur change si rapidement que je n'arrive pas à le suivre. Et comme elle révèle toujours beaucoup plus que son propre état, c'est un très intéressant sujet d'étude. Ce matin, quand je suis allé voir Renfield après qu'il a refusé de voir Van Helsing, ses manières étaient celles d'un homme qui est maître de son destin, subjectivement en tout cas. Il ne tenait pas du tout compte des choses purement terrestres, il flottait dans les cieux et contemplait dédaigneusement les faiblesses et les besoins de nous autres pauvres mortels. Je pensais que je pourrais profiter de l'occasion et apprendre quelque chose, et je lui demandai « Et les mouches ?» Il me sourit d'un air supérieur, un sourire qui aurait convenu au Malvolo de la Nuit des Rois, et me répondit « La mouche, mon cher sœur, a une particularité étonnante. Ses ailes représentent parfaitement les pouvoirs aériens des facultés psychiques. Les anciens avaient bien raison quand ils représentaient l'âme sous la forme d'un papillon. » Je poussai son analogie jusqu'au bout et lui demandai aussitôt « Oh, c'est donc après une âme que vous en avez ?» Sa folie fut plus forte que sa raison, et son visage prit une expression embarrassée. Mais il se mit à secouer la tête d'un air décidé que j'avais rarement vu, et il dit « oh non, je ne veux pas d'âme, je ne veux que la vie !» Son visage s'éclaira. « Je suis tout à fait indifférent à tout cela maintenant. La vie, c'est très bien, j'ai tout ce que je désire !» « Vous devrez vous trouver un nouveau patient, docteur, si vous voulez étudier la zoophagie. » J'étais un peu déconcerté. Aussi, je poursuivis. « Ainsi, vous commandez à la vie. Vous êtes un dieu, je suppose. » Il me sourit d'un air supérieur. « Oh non ! Loin de moi la volonté de m'arroger les attributs de Dieu. Je ne me sens même pas concerné par lui d'un point de vue purement spirituel. » Si je devais définir ma position intellectuelle, je suis, en ce qui concerne les choses purement terrestres, un peu dans la position qu'occupait Enoch sur le plan spirituel. C'était une énigme pour moi. Sur le moment, je ne pus me rappeler le rôle qu'occupait Enoch dans les Écritures. Alors, je ne pus que poser tout simplement la question, même si je me rendais compte qu'ainsi, je baisserais dans l'estime de l'aliéné. « Et pourquoi Enoch ?»« Parce qu'il marchait avec Dieu. » Je ne voyais pas bien l'analogie, mais je ne voulais pas l'admettre, alors je préférais revenir à sa déclaration précédente. « Ainsi, vous ne vous souciez pas de la vie et vous ne voulez pas d'âme. Et pourquoi ?» Je posais la question rapidement et de façon assez abrupte pour le déconcerter et j'y parvins. Pendant un instant, il revint à ses anciennes manières serviles, se courba devant moi et me répondit d'un ton flatteur. « Je ne veux pas d'âme, c'est vrai, Je ne pourrais pas m'en servir si j'en avais, et elles ne me seraient d'aucune utilité. Je ne pourrais ni les manger, ni les... » Il s'arrêta soudain, et sa vieille expression rusée se répandit sur son visage, comme les rides que produit le vent sur l'eau. « Et, docteur, la vie, qu'est-ce que c'est, finalement ? Quand vous avez tout ce dont vous avez besoin, et que vous savez que vous ne manquerez jamais de rien, tout est bien. J'ai des amis, de bons amis, comme vous, docteur Seward. » Il prononça cette dernière phrase en me lançant un regard incroyablement rusé. « Je sais que je ne manquerai jamais de moyens de subsistance. » Je pense que, dans la confusion de sa folie, il perçut ma réprobation, car il s'enfonça immédiatement dans son ultime refuge, un silence obstiné. Après un moment, je vis qu'il était inutile d'essayer de parler avec lui pour le moment, et je partis. Plus tard dans la journée, il me fit appeler. En temps ordinaire, je ne serais pas venu sans une raison précise. Mais j'éprouvais maintenant pour lui un tel intérêt que je fus heureux de faire cet effort. Par ailleurs, cela me permettait également d'occuper mon temps. Harker était sorti, poursuivant ses recherches, ainsi que Lord Godalming et Quincey. Van Helsing était assis dans mon bureau, compulsant les rapports préparés par les Harker. Il semble penser qu'en connaissant le moindre détail sur le bout des doigts, il pourra tomber sur quelque indice. Il ne veut pas être dérangé de son travail sans raison valable. Je l'aurais bien emmené avec moi voir le patient, mais je pensais qu'après la rebuffade qu'il avait essuyée, il ne souhaiterait pas y retourner. Mais j'avais une autre raison. Rainfield ne parlera peut-être pas aussi facilement devant une tierce personne que si lui et moi étions seuls. Je le trouvai assis au milieu de la pièce sur son tabouret, une position qui généralement indiquait chez lui une certaine activité mentale. Quand j'entrai, il me dit immédiatement, comme si la question lui brûlait les lèvres, « Et les âmes ?» Mes suppositions étaient donc exactes, les processus mentaux inconscients suivaient leur cours, même chez les aliénés. Je résolus d'en avoir le cœur net et lui demandai, « Et vous, qu'en pensez-vous ? » Il ne répondit pas immédiatement. Il regarda autour de lui, vers le haut et vers le bas, comme s'il espérait trouver quelque inspiration pour sa réponse. « Je ne veux pas d'âme, » dit-il d'une voix faible, comme s'excusant. Le sujet semblait le tourmenter, et, déterminé à en tirer profit, « je dois être cruel uniquement afin d'être bon, comme dirait Shakespeare. » Je lui dis, « Mais vous aimez la vie et vous voulez de la vie. »« Oh oui, mais tout va bien, ne vous faites pas de soucis pour ça. » »« Mais, demandai-je, comment peut-on prendre une vie sans prendre l'âme en même temps ?» Cela sembla le perturber et je poursuivis, « Vous serez bien quand vous vous envolerez d'ici, parmi les âmes de milliers de mouches et d'araignées et d'oiseaux et de chats qui bourdonneront et gazouilleront et miauleront autour de vous. Vous avez pris leur vie, vous voyez, et vous devrez bien vous accommoder de leurs âmes. » Quelque chose sembla frapper son imagination, car il se boucha les oreilles et ferma les yeux, comme un petit garçon à qui on lave le visage. Cette image avait quelque chose de pathétique et j'en fus touché. Elle me donna aussi une leçon, car j'avais l'impression d'avoir devant moi un enfant, seulement un enfant, bien que ses traits fussent ceux d'un vieil homme et que sa barbe naissante fût blanche. Il était évident qu'il était sujet à une perturbation mentale, et sachant comment, par le passé, il avait interprété des événements qui, pourtant, ne le concernaient en rien, je pensais que je devais entrer dans son jeu autant que possible. La première chose à faire était de restaurer la confiance. Je lui demandai donc, en lui parlant suffisamment fort pour qu'il m'entende, malgré ses oreilles bouchées, « Voudriez-vous un peu de sucre pour faire revenir vos mouches ?» Il sembla se réveiller à l'instant et secoua la tête. Il me répondit en riant, « Non, merci bien, les mouches sont de pauvres petites choses en vérité. » et après un moment, il ajouta « Mais quand même, je ne veux pas qu'elle bourdonne autour de moi. » Je continuai « Ou des araignées ? Au diable, les araignées ! À quoi servent-elles ? Il n'y a rien en elles qu'on peut manger, ou... » Il s'arrêta soudainement, comme s'il se rappelait qu'il abordait un sujet interdit. « Tiens, tiens, pensai-je, c'est la seconde fois qu'il s'arrête sur le mot « boire ». Qu'est-ce que cela signifie ?» Renfield semblait conscient d'avoir fait une erreur, car il se hâta d'ajouter, comme pour détourner mon attention, « Je n'éprouve aucun intérêt pour tout cela. Des rats, des souris et tous ces petits animaux, comme le dit Shakespeare, à manger pour les poulets. J'en ai assez de toutes ces idioties. Autant demander à un homme de manger des molécules avec des baguettes que de me demander de m'intéresser à tous ces carnivores inférieurs quand je sais ce qui m'attend. Je vois, vous voulez de plus grands corps, que vous pourrez mordre à pleines dents. Et que diriez-vous d'un éléphant pour le petit déjeuner ? Vous dites des bêtises. » Je trouvai que son esprit s'éveillait à nouveau. J'accentuai donc ma pression. « Je me demande, dis-je d'un air pensif, à quoi peut bien ressembler l'âme d'un éléphant ?» J'obtins l'effet désiré. Il perdit de sa superbe et redevint tel un petit enfant. « Je ne veux pas d'une âme d'éléphant, je ne veux pas d'âme du tout, » dit-il. Pendant un moment, il resta assis comme abattu. Soudain, il bondit sur ses pieds, les yeux brillants et montrant tous les signes d'une intense excitation cérébrale. « Au diable, vous et vos âmes » cria-t-il. « Pourquoi me torturez-vous ainsi avec ces âmes ? N'ai-je pas déjà assez de soucis et de souffrances sans devoir encore m'occuper d'âmes ?» Il semblait si hostile que je pensais qu'il était au bord d'une nouvelle crise homicide. Aussi, j'utilisai mon sifflet afin d'appeler à l'aide. Mais il se calma à l'instant et me dit en s'excusant « Pardonnez-moi, docteur, je m'oublie. Vous n'avez pas besoin d'aide. Je suis si inquiet que j'en deviens irritable. Si seulement vous saviez quel problème je dois affronter, vous auriez pitié, vous seriez tolérant et vous me pardonneriez. S'il vous plaît, ne me mettez pas dans une camisole de force. » Je dois réfléchir, et je ne peux pas réfléchir librement lorsque mon corps est sous contrainte. Je sais que vous me comprendrez. » Il avait évidemment retrouvé le contrôle de lui-même. Ainsi, quand les surveillants arrivèrent, je leur dis de ne pas tenir compte de mon appel, et ils se retirèrent. Renfield les regarda partir, et quand la porte se referma, il me dit avec une grande dignité et une grande douceur « Docteur Seward, vous m'avez témoigné beaucoup d'égards. Soyez sûr que je vous suis très, très reconnaissant. » Je pensai que c'était le moment de le quitter tant qu'il était dans cette disposition d'esprit, et je pris congé. L'état de cet homme me donnait à réfléchir. Il y avait quelques points qui auraient pu constituer ce que les journalistes américains appellent une « story », pour peu qu'on parvienne à y mettre un peu d'ordre. Voici quels étaient ces points. Ne mentionne jamais le terme « boire ». A peur d'être encombré de l'âme de quelque créature que ce soit. N'a aucune crainte de manquer de vie dans le futur. Méprise toutes les formes de vie inférieures, même s'il craint d'être hanté par leurs âmes. En toute logique, cela mène à une seule conclusion. D'une façon ou d'une autre, il a l'assurance d'accéder à une forme de vie supérieure. Mais il a peur des conséquences, le fardeau d'une âme. C'est donc à une vie humaine qu'il s'attend. Et avec tant de certitude. Dieu miséricordieux! Le comte est venu à lui, et il prépare quelque nouvelle machination infernale.
Plus tard.
Après ma ronde, j'allai voir Van Helsing et lui fis part de mes soupçons. Il prit un air grave, et après avoir réfléchi un moment, me demanda de le conduire à Renfield. Ce que je fis... En arrivant devant la porte, nous entendîmes l'aliéné qui chantait gaiement comme il le faisait en un temps qui me semble maintenant si lointain. En entrant, nous vîmes avec effarement qu'il avait répandu du sucre, comme il le faisait auparavant, et les mouches, un peu léthargiques en automne, commençaient à bourdonner dans la pièce. Nous tentâmes en vain de le ramener sur le sujet de notre précédente conversation. Il n'écoutait pas. Il continuait à chanter, comme si nous n'étions pas présents. Il avait replié une feuille de papier et la rangea dans un petit calepin. Nous dûmes sortir, aussi ignorants que lorsque nous étions entrés. C'est vraiment un bien curieux cas. Nous devons le surveiller cette nuit. Lettre de Mitchell, fils et Candy à Lord Godalming. 1er octobre.
My Lord, accéder à vos désirs est toujours un honneur et un plaisir pour nous. Conformément aux souhaits exprimés par votre seigneurie, par la voix de Mr. Harker, nous avons l'honneur de vous apporter les informations suivantes relatives à la vente et à l'acquisition du numéro 347 Piccadilly. Les vendeurs sont les exécuteurs testamentaires de feu Mr. Archibald Wintersfield. L'acquéreur est un aristocrate étranger, le comte de Ville, qui a conclu la vente en réglant le montant de l'acquisition de la main à la main, si votre seigneurie veut bien me passer l'expression. Nous ne disposons, en dehors de cela, d'aucune autre information le concernant. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de notre complet dévouement. Mitchell, fils et Candy. Journal du docteur Seward. 2 octobre.
J'ai placé un homme dans le corridor la nuit dernière, et je lui ai demandé de prendre note de tous les sons qu'il pourrait entendre en provenance de la chambre de Renfield. Je lui ai dit aussi de m'appeler si quoi que ce soit d'étrange se produisait. Après le repas, une fois que nous fûmes tous réunis autour du feu dans le bureau, Mrs. Harker étant allée au lit, nous discutâmes de nos tentatives et de nos découvertes de la journée. Harker était le seul à avoir obtenu quelques résultats, et nous avions bon espoir que son indice se révélerait important. Avant d'aller me coucher, je me rendis devant la chambre de mon patient et regardai par le guichet. Il dormait profondément et sa poitrine se soulevait régulièrement. Ce matin, l'homme de garde me rapporta qu'un peu après minuit, Renfield s'était agité et avait commencé à réciter ses prières à voix haute. Je lui demandai si c'était tout, et il me répondit que c'est tout ce qu'il avait entendu. Il y avait quelque chose de si suspect dans son comportement que je lui demandai sans détour s'il s'était endormi. Il m'assura que non, mais admit avoir piqué du nez quelquefois. Il est bien dommage qu'on ne puisse pas faire confiance aux hommes quand on ne les surveille pas. Aujourd'hui, Harker va continuer à suivre sa piste, et Art et Quincey vont chercher des chevaux. Godalming pense que ce sera une bonne chose d'avoir des chevaux en cas d'urgence. En effet, quand nous aurons les informations que nous recherchons, il n'y aura pas de temps à perdre. Il va nous falloir stériliser toute cette terre que le comte a fait amener, entre le lever et le coucher du soleil. Nous pourrons alors tomber sur lui, alors qu'il sera en position de faiblesse, et sans nulle part où se réfugier. Van Helsing est au British Museum pour compulser d'anciens ouvrages de médecine. Les anciens médecins tenaient compte de faits qui furent par la suite rejetés par leurs successeurs, et le professeur recherche des remèdes contre les sorcières et les démons qui pourront peut-être nous être utiles par la suite. Parfois, je me dis que nous devons tous être fous et que nous allons nous réveiller dans un asile avec une camisole de force.
Plus tard.
Nous avons de nouveau tous eu un entretien. Il semble que nous soyons enfin sur une piste, et le travail d'aujourd'hui marquera peut-être le commencement de la fin. Je me demande si le calme de Renfield a quelque chose à voir avec cela. Son comportement a suivi si exactement les allées et venues du comte qu'il peut peut-être sentir d'une façon subtile la destruction prochaine de ce monstre. Si seulement nous pouvions avoir une idée de ce qui lui est passé par la tête entre la discussion que j'ai eue avec lui aujourd'hui et le retour de sa passion pour les mouches, cela nous donnerait peut-être un indice d'importance. Il est maintenant très calme, enfin, il me semble. Ce cri terrible ne vient-il pas de sa chambre ? Le surveillant a surgi dans ma chambre pour me dire que Renfield a été victime d'un accident. Il l'a entendu crier, et lorsqu'il est entré, il l'a trouvé gisant face contre terre, et tout couvert de sang. Je dois y aller immédiatement.